voudrais faire ce matin l'éloge de l'inactuel, de tout ce qui résiste à l'immédiat, au flux, au brûlant des infos, l'éloge de tout ce qui n'est pas chaud. Vous avez remarqué comme je ne parle pas de lui ou d'elle, comme je ne réagis pas sur ça, sur telle petite phrase, telle primaire, tel résultat, tel grand débat. Vous avez remarqué forcément comme cette saison est sous le signe de l'inactuel pour moi, comme on résiste ici tous les matins à la tyrannie de l'opinion, du commentaire ou même de la réaction, peut-être parce que pour dire le présent, il faut imaginer d'autres façons, d'autres manières que la formule lapidaire, que la désignation, le doigt pointé, vous savez, sur le monde tel qu'il nous est présenté. Je voudrais faire des tours, des détours, sortir de notre plus que présent, laisser se déployer la multiplicité des sens, des interprétations, des possibilités. Je voudrais qu'on se moque de la vie de chacun, surtout s'il est formulé du jour au lendemain, ne serait-ce que parce qu'il va changer. Je voudrais qu'on invente un autre temps qui serait celui de la pensée, un temps qui s'étire, un temps qui s'étend, un temps qui comprenne hier, aujourd'hui, demain, la mémoire, la vision et le contemporain, le passé, le futur et le présent, parce que je crois profondément que l'actualité n'a rien à voir avec le présent ou même avec la vérité. C'est une fiction que l'on construit en société avec ses chimères et ses égarements, une fiction à laquelle on peut dire non par le pari de la distance, par le pari de la lenteur, par le pari de l'inactuel.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui prend ses distances vis-à-vis de l'actualité. Il est romancier et son dernier roman, Marmoud ou la montée des eaux, s'est vu distingué par le très chic, privé plaire, je le disais, pour ce livre entièrement écrit en vers libre. Il s'est glissé dans la voix d'un poète syrien qui nous raconte l'histoire de son pays depuis la rive et les profondeurs du lac El Assad. C'est un texte qui défie l'inhumanité et la froideur des chiffres ou des flashs infos. Bonjour Antoine Waters.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Je suis ravi.
Ce matin, à quel point êtes-vous inactuel, tiens?
À quel point je pense que le livre répond pour moi. Hein. C'est la parole de Marmoud, ce type qui est posé sur les eaux du lac et qui regarde le monde depuis ce nulle part, parce qu'il est au milieu des conflits, au milieu des combats, au milieu des tirs, et en même temps il est pas là. C'est quelqu'un qui va plonger à la recherche de ses souvenirs et qui, je pense, a beaucoup de mal à se tenir au milieu de l'actualité.
Précisément, vous, quel rapport est-ce que vous entretenez avec l'actualité, cette actualité mouvante, effrénée, effervescent, toutes les informations, quand elles ne sont pas matraquées, se chassent les unes les autres.
C'est un rapport de névrose et de souffrance. Moi, je crois que le fait d'être constamment noyé comme ça dans des images, dans des mots qui sont détachés de leur sens profond, des mots qui ne disent plus ce qu'ils sont censés dire. Donc, on vit dans un monde où la vérité est le mensonge et inversement. Et je pense que ça crée en nous beaucoup de nœuds.
Oui. Si on prend l'exemple de la Syrie, par exemple, qui est au centre de votre livre, quelle place la Syrie occupe-t-elle dans l'actualité aujourd'hui, Antoine Waters?
Plus une grande place. Hein. Ironiquement, on a fêté les 10 ans des printemps arabes il y a quelques mois. Et moi, je trouve ça terrible qu'on se rappelle de la Syrie et de ce qui se passe là-bas à l'occasion d'un anniversaire comme celui-là. Donc oui. Non, il n'y a plus beaucoup de place pour la Syrie aujourd'hui.
C'est intéressant que vous parliez d'anniversaire, parce que ce sont des chiffres, les anniversaires. Et le vide, effectivement, de cette actualité, parfois brièvement comblé par des chiffres, où on a pu comptabiliser aussi le nombre de morts, de blessés, de villes détruites ou assiégées. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dès lors que notre relation au monde n'est plus régie que par des chiffres, par des données, par des simples faits?
Mais on devient des robots, on devient des individus qui incapables de ressentir l'altérité, de ressentir ce qu'est une vie qui n'est pas la nôtre, une vie qui est au-delà des frontières. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me glisser dans la peau de quelqu'un qui n'a pas mon âge, qui n'a pas mon identité, qui vit dans un ailleurs, et en même temps essayer de ressentir profondément, avec humanité, ce que c'est, ce que ça peut être, oui, et de le dire avec ces mots-là.
Et je me disais, on oublie aussi, quand il n'y a que des chiffres.
Ah ben on oublie, c'est sûr. Ben, c'est ce qu'on connaît avec la crise sanitaire, hein, l'accumulation de chiffres, de données froides, soi-disant objectives ou dites objectives, ça crée du recul. Quand on entend en Syrie le nombre de morts, le nombre de blessés, les villes prises quotidiennement, ça crée un mouvement de recul. Avec la crise sanitaire, on se dit, mais ok, on n'en peut plus, on n'y arrive plus. Et donc, je crois que moi, mon violon dingue et ma façon d'essayer de peser sur l'autre plateau de la balance, c'est de mettre de la poésie là-dedans et essayer que l'humanité revienne par ce biais-là.
De quoi, Antoine Waters, s'agit-il à tout prix de garder la mémoire?
Mais la mémoire, en l'occurrence, ici, j'ai envie de dire de l'histoire d'un pays, de l'histoire de cette Syrie dont le récit a été largement modifié par le pouvoir en place, par la famille Assad. Et Mahmoud, c'est quelqu'un qui va essayer de créer justement un contre-récit. C'est replonger dans les 70 années de l'histoire syrienne et dire, voilà, contre le parti basse, contre ce qu'on nous dit, contre les mensonges d'État, moi je vais vous proposer une version revisitée du pays.
Ce que vous dites, effectivement, vous venez de le dire, hein, c'est que la poésie permet de proposer du monde un autre récit que celui proposé par l'actualité. Alors au fond, à quoi résiste la poésie ?
Elle résiste à tout. Ça fait écho au petit texte de tout à l'heure que vous avez lu en introduction. La poésie, c'est une manière justement d'être profondément inactuel, et c'est très heureux de l'être, de se tenir à distance, mais de résister à une forme de d'inflation d'une pensée vide.
Pour autant, est-ce que les mots peuvent changer quelque chose ?
Oui et non. Écrire demande folie et foi. Il faut les deux. Et je pense que non, ça ne changera rien dans le fond. Mais à nouveau, moi, je suis content et conscient du fait qu'on est beaucoup à essayer de peser sur l'autre plateau de la balance. Et c'est ça en quoi je crois.
Je vous pose aussi la question, Antoine Wauters, parce qu'au-delà de l'histoire de la Syrie, ce que vous retracez dans ce livre, Mahmoud, ou la montée des eaux, se lit aussi comme le récit d'une catastrophe. Ouais. Une catastrophe écologique imminente, d'un dérèglement de notre relation, disons, avec le vivant. Mm-hmm. Et je pense tout de suite à l'un de vos précédents romans qui s'appelait « Moi, Martel et les autres », qui imaginait justement le pire. Qu'a-t-on fait du vivant, en somme ?
On l'a piétiné, on l'a détruit. On n'est pas très attentif aux choses qui sont muettes. Moi qui vis dans les bois, je remarque à quel point regarder la nature, c'est très riche. Et toutes ces choses-là, on a tendance à les... L'être humain, partout où il passe, il a besoin de planter le drapeau de sa présence, de sa ridicule présence. Il va sur la lune, il plante un drapeau, il va à la plage, il met un parasol. Et donc, il a besoin de montrer qu'il est là, en permanence. Et je crois qu'on en a marre de ça. Je crois qu'on en a marre de ces rapports de domination.
Oui, mais comment est-ce qu'on fait alors pour écrire tout en ayant conscience que ce qu'on écrit pourrait à tout moment disparaître ? Vous, dont le livre « Mahmoud ou la montée des eaux » est placé sous le signe de la disparition.
C'est vrai, c'est une bonne question, Augustin. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je sais pas. En tout cas, c'est une donne nouvelle. Je pense que jusqu'il y a peu de temps, les écrivains pouvaient se dire « On est en train d'écrire sur un sol qui est stable, qui est ferme, une terre qui va durer. » Et moi, je crois que ce que j'écris depuis quelques années, ça fait fond sur cette instabilité, cette insécurité. Et j'ai envie que la littérature d'aujourd'hui parle de ça.
Antoine Wauters, quand tout aura disparu, qu'est-ce qui restera ?
Du calme.
Dans un monde comme le nôtre, qu'est-ce qui donne du sens à cette activité qu'est l'écriture ? Parce que c'est quelque chose que vous interrogez dans le livre, au fond.
Oui, c'est vrai. Je nourris un rapport qui est un peu contradictoire, en tout cas ambivalent à l'écriture. C'est pas évident dans un monde où on en parle, qui est comme ça bruyant, extrêmement bruyant, mais un bruit qui n'est pas très dense et pas très habité. C'est difficile de résister avec des mots qui sont faiblement lus, qui sont diffusés, mais on sait aussi qu'on est tous pris par nos vies. Donc mais moi j'ai une chance, je crois, assez grande, c'est que je n'ai jamais voulu travailler dans les métiers dits classiques, et l'écriture est devenue un métier, pas par choix, mais c'est parce que tous les matins elle vient me chercher et elle me dit: Antoine, tu t'installes à ton bureau et tu écris coûte que coûte. Et d'une certaine façon, et je pense à la phrase de Thomas Bernhard qui disait que dans son enfance, il avait choisi la direction opposée tous les matins, alors que le village se vide et que les gens partent en voiture travailler. Moi, je reste là et je me dis, ok, j'ai choisi la direction opposée, mais c'est une belle direction aussi.
À propos de direction et à propos de bruit, Antoine, vous savez qu'il y en a une qui part dans tous les sens dans cette émission et qui parle très fort. Vous la connaissez, c'est évidemment la culture et son actualité. Après moi, le déluge, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 3 décembre ?
Fais bien attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà.
Angèle, tombée du ciel, la chanteuse belge qui organisait hier sur les réseaux sa soirée d'anniversaire confinée a décidé de sortir cette nuit, à minuit, son deuxième album, avec une semaine d'avance sur le calendrier, baptisé 95 et porté par le morceau Bruxelles, je t'aime, révélé en octobre. L'opus réunit 12 titres plus intimes, plus graves, plus éveillés que les précédents. Angèle y aborde ses démons, ses amours, ses ruptures et son féminisme. Comme on se réjouit qu'elle soit notre invitée lundi matin, si tout va bien.
Ben moi c'est ma mère quand j'étais petite qui me lisait des histoires, et après du coup j'avais envie de continuer.
Et quand il y en a plus, il y en a encore. Alors que le salon de Montreuil bat son plein et a révélé mercredi ses pépites, c'est l'UNICEF qui a dévoilé hier son palmarès 2021 de la littérature jeunesse. Plus de 12 000 enfants ont ainsi voté pour leur livre préféré de l'année autour du thème « Au fil des émotions ». Résultat, 4 ouvrages primés, parmi lesquels « La maîtresse me stresse et alors » d'Elisabeth Brami et Christophe Best dans la catégorie 6-8 ans, ou le joli « Mousse » d'Estelle Billon-Spagnol pour les 3-5 ans. Ça va en faire des cadeaux trop bien à déposer sous le sapin.
Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange, c'est là qu'il pense.
Hip-hop au top, les deux géants de la musique, Spotify et Apple, viennent de dévoiler leur bilan des écoutes de l'année en France et fin du suspense. Comme nous le disait Kazay, c'est le rap qui a gagné. Sur Spotify, Jul, Ninho et SCH s'imposent comme les trois artistes les plus écoutés de 2021, tandis côté album, c'est celui de Damso qui met tout le monde d'accord. Sur la plateforme suédoise, comme sur Apple Music, le titre La Kiffance du Marseillais Nap s'impose quant à lui comme le morceau le plus streamé des 12 derniers mois. Allez là!
Je suis le beau bizarre, venu là, par hasard.
Et enfin, beau bizarre de vivre, 18 CD, 276 titres, 3 lives mythiques et 48 pages de textes et de photos. Un an et demi après la disparition du poète noctambule Christophe, tout son univers et sa discographie se retrouvent aujourd'hui réunis pour la première fois dans un coffret événement de 45 tours rares, en duo inédit, de musique de film, en face B méconnue. C'est un chapitre de près de 60 ans de la pop française qui se déploie dans les mélodies de l'auteur des mots bleus. C'est fabuleux. Mais surtout l'écrivain Antoine Vauteur, s'invitait de Boomerang ce matin pour Mahmoud ou La Montée des Eaux. Ce livre, écrit en vers libre, ce qui est quand même un singulier parti pris, comment cette forme du vers libre s'est-elle imposée à vous ?
Je trouvais ça beau. J'avais l'impression que les mots posés sur la page comme ça, c'était le calque de la plage du lac Assad, et que le lecteur allait pouvoir cheminer avec Mahmoud sur la barque. C'était graphique.
Mais sans parasol.
Oui, là, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup de parasols. Non, graphiquement, et puis aussi parce que je crois que c'était une manière de permettre au lecteur de s'arrêter quand oui. Il voulait. Le livre est une plongée. Et donc, le fait que ce soit un texte très vertical sur la page, et donc du vers libre, je me disais, c'est une manière de permettre à chacun de suffoquer et puis de reprendre son souffle.
C'est très beau ce que vous dites, Antoine Waters, parce qu'effectivement, il y a plein de sauts, il y a plein de rejets, il y a plein de passages à la ligne. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? En quoi ça vient enrichir le fond que vous racontez ?
Ouais, bah, je crois que quand j'écris, j'essaye toujours que le fond, la forme et le son se donnent la main. Et ici, c'était très important que tout ça marche ensemble et... Je sais plus. Là, j'ai oublié la question. En fait,
mais c'est très bien. Vous y répondez. En quoi la forme vient enrichir le fond?
Oui, ben je sais pas. Ça s'est imposé comme ça en fait. Ça s'est imposé à moi parce que j'avais besoin aussi de lenteur. J'avais besoin que ce soit des mots vrais et des mots denses, des mots habités. Et je pense que c'était la seule manière de l'écrire.
En tout cas, la poésie est partout. Votre héros est d'ailleurs poète. Et je sais que vous êtes passionné pour la poésie syrienne, qu'on avait interrogé à ce micro avec Adonis notamment.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait pour vous la spécificité de cette poésie?
C'est une poésie qui, avec peu de moyens, crée beaucoup d'effets, je trouve. Il y a des textes comme ça, il y a 3 mots. Il parle du reflet de la lune sur un plat de concombre.
Hey,
voilà, boum.
Vous dites qu'elle se tient à hauteur des choses.
Ouais. Mais je trouve que c'est ça qui est bon. Et dans un roman, généralement, on veut aujourd'hui des livres avec beaucoup de pages, des gros livres. Et c'est presque ça qui fait parfois la qualité, en tout cas qui fait qu'on va se dire « Ah, ça doit être intéressant ». Moi, j'ai plutôt tendance à penser que les petits livres, avec moins de mots, sont très intéressants aussi.
Ça veut dire que c'est ça que vous essayez d'atteindre à travers la poésie, quelque chose de l'ordre de la...
Non, j'ai envie de me taire de plus en plus. Non, mais je crois qu'on écrit aussi pour ça, pour le silence qu'il y a dans les mots. Quand on lit un livre, l'expérience qu'on en fait, c'est aussi ressentir toute la beauté du silence qu'il y a dans le fond de la littérature, tout ce calme qu'il y a là. Alors c'est très bizarre, c'est très paradoxal d'être écrivain et de rechercher par les mots le silence qu'il y a dans la littérature. Mais je crois qu'on en a besoin aussi de ça. Mais c'est pas un silence pauvre. Pour moi, c'est le silence qui contient absolument tout. Notre humanité, notre monde, et avec beaucoup de nuances et avec des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et de pratiquer.
Vous savez, nous, on a ce silence de radio qui est à peu près le même.
Ouais.
Comment la poésie est entrée dans votre vie? Comment ce calme, ce silence est entré dans votre vie?
Moi, je me destinais j'avais envie de devenir athlète. J'avais envie de devenir un champion d'athlétisme. Et puis, j'ai été blessé à l'adolescence. Et je me souviens que je suis rentré dans une bibliothèque et je suis tombé sur un livre d'un poète belge qui s'appelle Jacques Isoard. Et je l'ai pris, ça s'appelle « La patrie empaillée ». Et j'ai commencé à lire, j'ai rien compris, du tout. Et puis je suis rentré chez moi et je me suis dit « C'est magnifique, tu ne comprends rien et tu es touché aux larmes ». Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il était possible de travailler la langue d'une façon très particulière, c'est-à-dire de mettre du sens, mais un sens qui peut-être va nous toucher davantage le cœur, le corps et le ventre plutôt que la seule pensée ou la raison.
Oui, j'ignorais que vous étiez sportif et c'est intéressant que vous parliez de corps.
J'ai
justement
changé.
Non, mais vous dites que la poésie, c'est ce qui reste le plus longtemps dans le corps.
Ouais. Ah ouais, bah il suffit, je pense, de lire un poème de, je sais pas, de Juarros ou n'importe qui, un seul, et ça nous habite pendant des semaines.
Ça veut dire que la lecture est une expérience physique. Qu'en est-il de l'écriture ?
C'est très physique aussi, hein. Mine de rien, c'est très physique. On sent, c'est un drôle de combat parce que ça fait des nœuds. Écrire fait des nœuds
des
dans le ventre, des crampes, et en même temps, ça les dénoue. C'est les deux. C'est un rapport. Je pense que sans l'écriture, je serais pas vivant. Et en même temps, ça me tue à petit feu. Donc, mais c'est beau. C'est un absolu. C'est un geste que je ne pourrais pas faire. Je peux plus m'en passer maintenant. C'est comme ça que je suis au monde.
Quand est-ce que vous l'avez pratiqué pour la première fois, ce geste d'écrire ?
À l'adolescence. J'étais encouragé par un professeur de français qui m'a dit « Écris, tu devrais écrire ».
Qu'est-ce que vous écriviez ?
Oh, j'écrivais... En fait, j'ai toujours essayé de contourner le système scolaire en écrivant d'autres types de choses. C'était des rédactions très personnelles, voilà, peut-être pas tout à fait dans les cadres et dans les normes, mais j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, ce qui me passait par le ventre. Et c'est une façon d'essayer de donner du sens. Moi, j'étouffais. Je suis quelqu'un, j'ai toujours étouffé dans le monde. Et donc écrire, c'était ça. C'était me permettre de respirer autrement,
ça veut
plus
dire
profondément.
Si je vous entends bien, votre corps et votre esprit, Antoine Waters, ont été modifiés, sculptés, réécrits par la pratique quasi quotidienne de l'écriture.
Ouais, absolument. Je suis devenu un être encore plus fantomal. Parce que quand on écrit, on est des fantômes. On traverse la vie comme un fantôme. On regarde. Mais en même temps... c'est un fantôme qui est ouais, très, je pense, très habité.
Mais alors, ça ressemble à quoi, le corps d'un écrivain ? Bah, si c'est un fantôme, la question se pose.
Oui, c'est très étrange. On se soucie peut-être pas tellement, pas assez de son corps quand on écrit. Nietzsche parlait de la grande santé du corps et de l'importance du corps quand on pense, quand on écrit, parlait de l'importance de la marche. J'essaye de ne pas négliger ça. J'essaye d'être quelqu'un qui continue d'utiliser son corps aussi. Mais je remarque quand même que l'écriture, même si le corps est présent, on est dans un ailleurs. Et dans cet ailleurs-là, la question de la santé du corps, la question de son confort, de sa beauté, tout ça, ça a tendance à disparaître un peu.
Et en quoi écrire, Antoine Waters, c'est aussi d'une certaine façon cultiver, voire exacerber sa sensibilité. C'est aussi prêter toujours plus d'attention aux sensations.
Mmh. Mais c'est nos sensations, mais c'est aussi les sensations des autres. Moi, je pense que mon plus grand plaisir d'écrivain, c'est de pouvoir précisément me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est expérimenter l'altérité. C'est devenir une fille, tout à coup je me réveille un matin et je quitte mon corps et j'essaye de voir et de ressentir les choses d'une toute autre manière.
Ça veut dire qu'on est plusieurs fois vivant en fait.
Plusieurs fois vivant et plusieurs, et nombreux aussi.
Pour autant, dans quelle mesure l'écriture est-elle aussi quelque chose qui vous dévore ?
Parce que c'est quelque chose qui ronge le temps de penser, qui ronge les nuits, qui ronge le plaisir passé avec des amis. Combien de fois je suis avec quelqu'un et tout à coup je dois m'absenter, réellement ou pas d'ailleurs, mais ma pensée, la pensée de l'écriture est là. Donc ça dévore, ouais, dans ce sens-là.
Vous êtes là ce matin ?
Un petit peu là. Non, je suis vraiment bien là.
Alors on va rester ensemble et on va reparler. Évidemment, de tout cela juste après la poésie de Sappho qui reprenait les mots eux-mêmes poésie de Léo Ferré. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? En 2006, vous êtes sur France Inter avec Antoine Waters. Vous écoutez Boomerang, vous êtes en vie.
Tout est affaire de décor. Changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles. Où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd. temps de rêver bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vive et meurs. Je passais comme la rumeur et m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle ou d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sorgue et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissent les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Comme des soleils révolus.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Là, comme ça, il me fait penser à Léo, mais pas le Léo auquel vous pensez. Hein. Il me fait penser à Léo, lettre de lumière de la série Charmed. Vous savez, il y a un peu de Julien Doré, période Bichon, et d'Olivier Adam aussi, la boucle persuasive, le sourire culotte de velours, le regard pamoison, avec ses chaussettes rayées, si vous pensez que je les avais pas remarquées, l'écrivain Antoine Waters, invité de Boomerang ce matin pour Mahmoud ou La Montée des Eaux. L'histoire, on le disait, d'un poète syrien qui vit sur les berges du lac El Assad, un lac artificiel qui a englouti sa ville natale, ainsi que des pans entiers de l'histoire de son pays. C'est ça qui est très beau. Et régulièrement, il plonge dans ses eaux et il renoue avec ce qui a été englouti, avec ce qui a été perdu. En quoi, justement, écrire, Antoine, c'est plonger?
C'est, en fait, pour moi, écrire, c'est être dans la position de Mahmoud, c'est-à-dire être sur cette barque entre le ciel et la terre, entre la mémoire et l'oubli, entre le monde réel et le monde du rêve. Et c'est plonger, quand on plonge, quand on écrit, moi je plonge dans mes souvenirs d'enfance. Je crois que toutes les sensations qu'on peut percevoir dans le livre, elles viennent de là. J'ai un grenier à images qui est, je pense, presque exclusivement constitué de sensations, de moments vécus dans mon enfance. Et dans l'écriture, tout rejaillit.
Plonger au risque de manquer d'air aussi parfois, de manquer de souffle.
Ouais. L'écriture permet ça aussi. Moi, je suis un grand lecteur de Thomas Bernhard et c'est en lisant Thomas Bernhard que j'ai éprouvé que la littérature pouvait couper le souffle. Le couper et le restituer, c'est les deux. Et c'est ça qui est magnifique.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'on trouve une fois qu'on se trouve sous la surface, une fois qu'on est dans les profondeurs?
Mais on trouve toutes ces choses qui font que la vie à la surface n'est pas tolérable. Parce qu'on trouve l'envers du décor, on trouve la beauté, on trouve la nuance,
on trouve le silence,
on retrouve des êtres qu'on a perdus. La littérature, c'est aussi pouvoir continuer, poursuivre un dialogue avec ceux qui sont plus là, ou ceux qu'on peut plus toucher, ceux qu'on ne peut plus entendre. La littérature, c'est tendre un fil du visible vers l'invisible. Et ça me touche beaucoup, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans ce livre-là, puisque Mahmoud ne cesse de s'adresser à sa femme, Sarah, qui n'est plus là, qui ne verra plus, mais lui, il est convaincu que par la poésie, elle reste là.
Vous savez, ça me passionne, cette quête du silence que vous formulez depuis le début de cette émission. C'est presque devenu l'objet d'une quête, effectivement. Qu'est-ce que ça permet, en fait, le silence, tout simplement pour vous, Antoine Waters?
Oh, qu'est-ce que ça permet? Ça me permet de... je pense de, c'est un drôle de silence, ça me permet de pouvoir l'occuper d'une manière que je juge riche. C'est un silence qui comporte des voix. Moi, je passe ma vie à doubler ce silence de plein de voix. Si je suis en train de faire à manger chez moi, en soi, ça ne m'intéresse pas du tout de cuisiner. Mais par contre, je vais, dans ce silence de la cuisine, commencer à greffer des bouts de dialogue, des bouts de voix. Et là, ça devient passionnant.
Mais alors, est-ce que ça permet aussi la disparition de soi ?
Complètement. Bien sûr. Il ne s'agit que de ça, en fait, je crois. Absolument. Une disparition de soi, c'est pas une disparition triste ou sombre, c'est la disparition peut-être de l'identité figée qu'on est censé représenter, à laquelle on est assigné, un jeu. Et ce jeu, en fait, cache beaucoup d'autres choses, et je crois que c'est ça qu'on essaye d'atteindre quand on écrit, quand on travaille, quand on filme des choses. C'est retrouver un moi qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus pluriel.
C'est ce que vous dites quand vous faites dire à votre personnage de poète, pour écrire, ressentez à quel point vous n'existez pas.
Ouais, absolument. Je peux pas le dire mieux, Mahmoud l'a très bien dit.
Et qu'est-ce qu'il devient, le jeu, alors, dans votre écriture ?
Il devient une entité très, très joueuse. À nouveau, c'est la sensation de l'enfance. Quand on est enfant, on joue avec sérieux. Mais on joue aussi sérieusement à troquer son identité contre une autre. Et je trouve ça absolument fabuleux. Parce qu'il s'agit pas d'une blague, il s'agit pas de quelque chose de cosmétique ou léger. C'est vraiment... On change, on a besoin de changer de peau, on a besoin de faire expérimenter des tas de formes.
Alors, au fond, qui êtes-vous, Antoine Wauters ?
Ah ben là, je suis là, celui qui répond à vos questions.
Et vous êtes plusieurs aussi.
Comme tout le monde.
Vous êtes multiples. Dans quelle mesure écrire, c'est se donner la possibilité d'être quelqu'un d'autre, d'être un autre, toujours ?
Ben je crois que chaque livre est un visage différent de ce que je suis. Je pense que quand je serai mort, les gens pourront se dire, voilà... Il était constitué de tous ces morceaux, parfois contradictoires, parfois pas, ouais.
Et jamais vous ne vous posez la question de la légitimité, justement, de prendre la place de quelqu'un d'autre ?
Pas tellement. Je sais que c'est une question qui est très à la mode, et je sais que c'est une question qui divise beaucoup. Moi, j'ai été très touché quand le livre est sorti par le... Jean Birnbaum a fait un papier, il a dit « Est-ce qu'un jeune auteur belge, enfin jeune, un auteur de 40 ans, peut se mettre dans la peau d'un vieux poète syrien ? » Moi, ma réponse, c'est oui. Alors, est-ce que ça prend la place des voix des poètes syriens ou des Syriens qui auraient envie de raconter leur histoire ? Non. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'entend pas ces voix-là. Et qu'il me semble que si on n'est pas capable de faire ça quand on écrit, si on peut plus glisser dans la peau et dans l'altérité de quelqu'un, alors on est mort, quoi. On est mort comme écrivain, on est mort comme être humain, je pense. Quand on me dira en tout cas que je peux plus écrire que depuis mon registre d'état civil, j'arrête.
Antoine Wauters, vous avez devant les yeux un texte.
Oui.
Je sais pas de quoi il parle.
Ah.
Vous nous le lisez ?
Ouais, je le lis. Ce matin-là, nous avons éteint la lumière et fermé la porte. À nos enfants, nous avons laissé un mot, faites pour un mieux, signé papa. Puis sans rien emporter, nous nous mîmes à trottiner dans l'allée, le long de la grande route, dans les forêts profondes et bleues. Le froid nous faisait la vie dure, mais comme il écrasait en nous la douleur, il devint aussi notre remède. Levés bien avant l'aube, nous courions en paix. Nous ne possédions plus rien. Des artistes reconvertis en coureurs de fond, voilà ce que nous étions devenus, ce que nous sommes. Quelquefois, oui, nous repensons à l'époque de nos caisses à savon figées dans les embouteillages, pour 1250 balles par mois, bon Dieu, piétinées dans des embouteillages. Un monde censé aller de plus en plus vite, mais de plus en plus à l'arrêt. Des énergies prêtes à jaillir, mais de plus en plus muselées. Un monde d'infinie solitude, toujours plus seul, et séparé par le pouvoir du fric. Tous ces objets, tous ces cadeaux dont on ne voulait plus entendre parler, mais qu'on continuait de disperser aux quatre vents de nos incohérences. À présent que le vent nous guide, nous sourions, pensant à Noël qui vient et à notre envie d'offrir à nos gosses des heures de silence et des kilos de rien et de vacances sur les sommets. Un Noël sans papier cadeau, voilà l'intensité de ce qui est bien trop en vie pour penser à laisser des traces. Et fermant les yeux, nous rêvons du jour où il y aura, à la place du pullulement infini, des ministres des chemins de montagne, des ministres des rues jolies et enjolivées, des ministres de la planche à roulettes, du tas de bois, du tas de foin, des ministres de la sieste pour tous, des ministres du pardon et de la chaussure de trail, des ministres du souvenir, de la vieillesse et du temps qui passe, des ministres chiens et des ministres coléoptères, des ministres de la nuance, des ministres à l'écoute des sols, des eaux, du vent et du rhododendron, des ministres l'importance du songe, de la musique et des mots. Et ayant dit cela, nous poursuivons.
Vous ne dites pas je, Antoine Waters, vous dites nous.
Ouais.
Parce que vous êtes plusieurs.
Là, c'est un groupe de personnes, c'est un discours qui fait partie d'un texte qui est en écriture. Et c'est vrai que j'essaie de donner la voix. Ici, ce qui m'a marqué pour ce texte, qui a présidé à l'écriture de ce texte-là, c'est pendant le premier confinement, il y avait ce grand pianiste anglais qui a dû se reconvertir en caissier de supermarché. Et j'ai été bouleversé par ça, que ses doigts, pianistes, doués, ne puissent plus faire ce qu'ils avaient à faire. Et donc j'ai imaginé une histoire de gens qui n'en pouvant plus du système, de cet étouffement, de l'importance et l'absurdité de l'argent, quittaient, rompaient et devenaient des coureurs de fond.
Quel coureur de fond est-ce que vous êtes, vous ?
Un ultra-trailer. Non, j'ai courir le plus longtemps possible.
Merci infiniment, Antoine Waters, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Marmoud ou La Montée des Eaux, Privé Plaire, Fondation La Poste 2021, est publié chez Verdier et que c'est absolument magnifique. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang cette semaine. Lola Costantini, David Leprince, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Jérôme Humbert et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. Rosalia et The Weeknd, la classe, et la fama, il est 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers, l'instant M. Ça va Sonia ?
Ben ça va Augustin, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous retrouve lundi.
Nous aussi.
Ciao.
Salut.